Bonsoir à tous, voici le sommaire de cette session d'actualité. La République démocratique du Congo, comme partout dans le monde, commémore la journée internationale de la liberté de la presse dimanche 3 mai. Le pays présente à ce jour des tableaux assez variés sur cette question et une petite ronde dans ce journal nous en donne une idée plus claire dans un instant. Le commerce, un peu partout dans le monde, est assez sensible et comme partout, c'est une activité régulée. La RDC, pour son cas, annonce l'entrée en vigueur désormais de la loi qui réglemente dans le pays le petit commerce ou encore commerce en détail. Notre invité ce soir porte le nom de Valérie Nkosa Senge. Il est membre de l'Union de la presse en RDC au Nord Kivu et il partagera avec nous non seulement sa lecture de la liberté de la presse dans le pays, mais aussi les attentes des journalistes de la province où il exerce. Bienvenue dans ce journal. Nous l'avons dit, le monde commémore ce dimanche 3 mai, comme chaque année, la Journée internationale de la liberté de la presse. Thème retenu, façonner un avenir de paix. Et en RDC, le premier vice-président de l'Union nationale de la presse du Congo dénonce, entre autres à l'occasion, la précarité et la pauvreté qui sont, selon lui, partie du lot des journalistes malgré leur résilience. Écoutons à ce sujet Cyril Kileba, joint par Jean Gandou.
Sur papier, nous sommes une presse libre, indépendante. Nous exerçons notre liberté. Mais dans les faits, cette liberté-là est contrastée par plusieurs contraintes. D'abord, la précarité, la pauvreté de la presse lui enlève une grande partie de sa liberté. Maintenir une presse dans ces conditions-là, c'est exactement n'est pas vouloir d'une presse libre. Et puis, sur le plan national, façonner un avenir de paix, c'est un grand défi quand on sait que depuis maintenant près de 4 ans, la RDC est un territoire qui n'est pas en sécurité dans toutes ses frontières et les journalistes en payent les prix, particulièrement dans la partie est de notre pays. Il y a des rédactions, il y a des médias, il y a des journalistes qui ont quitté leur lieu de vie et qui ont abandonné leurs médias, dont les médias ont été saccagés et leur propre vie mise en danger. Et même dans la partie sous contrôle du gouvernement, on ne peut pas dire que c'est la liberté totale. La pauvreté, la précarité n'est pas que le lot de la partie occupée.
Le vice-président de l'UNPC évoquait là un certain nombre de défis du quotidien du journaliste de la République démocratique du Congo et Radio Okapi a jeté un œil sur la situation au territoire de Lubero, province du Nord Kivu, une zone qui vit dans le feu de l'insécurité. Martial Papimukeba.
C'est un constat préoccupant de la situation de la liberté de la presse dans les territoires de Lubero. Selon l'Union nationale de la presse du Congo, INPC, dans la zone, les professionnels des médias font face à des menaces aussi bien dans les zones sous contrôle gouvernemental que dans celles occupées par les rebelles. Dans certaines localités, des journalistes sont interpellés ou intimidés. Ailleurs, ils sont contraints d'abandonner leur métier faute de sécurité. Jean Maliro, président de l'INPC, M. Lubero décrit des conditions de travail particulièrement critiques.
Dans les zones contrôlées par le gouvernement, par exemple, nous enregistrons de plus en plus au cas d'interpellation et même des menaces par les services de sécurité des journalistes qui viennent des zones occupées par les M23, car ces derniers sont souvent pointés du doigt d'être restés dans ces zones. D'autre part, dans les zones du M23, les journalistes ont carrément abandonné le métier, car incapables de produire rien pour leur sécurité, pour éviter des menaces aussi de la part des rebelles. Dans le secteur de Bapere, des radios ont fermé, d'autres avaient même été incendiées.
Une situation qui illustre les défis majeurs auxquels est confrontée la liberté de la presse dans les territoires des Lubero. Béni, Martial Papimukeba, Radio Okapi.
Dans le Grand Katanga, la situation n'est pas si rose non plus. La présidente locale de l'Union nationale de la presse du Congo explique que les journalistes font face aux pressions mais aussi aux menaces qui impactent négativement leur manière de travailler. Un peu comme le vice-président national de l'Union de la presse de la République démocratique du Congo, Marianne Mujing-Yav, s'est confiée à Jean Gandou.
La liberté de la presse et d'expression est bafouée. On sent que les professionnels des médias dans l'espace Grand Katanga ont maintenant peur de traiter certains sujets, de donner l'information et la bonne, parce que il y a tout le temps des intimidations, des interpellations, que l'on ne dise pas ça, que l'on fasse attention, surtout de la part de certains politiques qui évoluent dans l'espace Grand Katanga. Je n'aimerais pas citer le nom d'un camp politique, mais sinon la situation n'est pas bonne. On sent une régression en ce qui concerne la liberté de la presse dans l'espace Grand Katanga. Dans l'espace Grand Katanga, nous avons quatre parties au Katanga, Lualaba, Tanganyika, Olomami. En ce jour, moi, je présente un tableau qui soit un tout petit peu sombre parce qu'on vit le musellement de la presse.
Économie à présent, le ministère de l'économie nationale annonce l'entrée en vigueur du décret portant mesures d'exercice du petit commerce et du commerce de détail, mais aussi la signature de l'arrêté interministériel fixant les activités de commerce de détail spécialisées à forte intensité de capital pouvant être ouvertes aux étrangers, information contenue dans le communiqué du ministère de l'économie nationale rendu public hier. Christian Makasinga.
Ces textes s'inscrivent dans le cadre de la volonté du gouvernement de clarifier et de moderniser les cadres juridiques applicables au commerce intérieur en vue de garantir un environnement économique plus structuré, équitable et sécurisé. Ils établissent notamment une distinction entre le petit commerce, les commerces de détail et les commerces de détail spécialisés à forte intensité des capitales, tout en précisant les conditions d'exercice des activités. Conformément aux dispositions en vigueur, les petits commerces et les commerces de détail sont réservés aux opérateurs économiques congolais. Certaines activités relevant du commerce de détail spécialisés à forte intensité des capitales demeurent ouvertes aux investisseurs étrangers dans les conditions par la réglementation. Ces segments concernent des secteurs structurés comme les supermarchés modernes, les franchises de marques, la vente de matériel technique ou automobile nécessitant un agrément. Les opérateurs économiques concernés disposent d'un délai de 6 mois pour se conformer aux nouvelles dispositions. Le ministre de l'économie nationale précise qu'un dispositif de vulgarisation sera déployé afin d'accompagner les acteurs économiques dans la compréhension et l'application de ces mesures. Il invite à cet effet l'ensemble des opérateurs économiques à se rapprocher des services compétents et à consulter le support officiels qui seront mis à leur disposition. Pour rappel, le gouvernement congolais, par l'intermédiaire du vice-premier ministre et ministre de l'économie nationale, avait annoncé en septembre 2025 qu'il ne renouvellera pas les moratoires autorisant les étrangers à exercer dans le secteur du petit commerce en République démocratique du Congo.
Retour à Beni dans la province du Nord Kivu, le prix du litre d'essence est revenu presque à la normale depuis hier soir, de 21 000 francs congolais voire 22 000. Il se vend de nouveau à 5 500 francs congolais, soit 2,5 $ américains. C'est à la suite des plaidoyers et d'une forte pression exercée par des jeunes leaders de la région, mais aussi des élus provinciaux et nationaux, ainsi que des déclarants en douane et de la Fédération des entreprises du Congo FEC en sigle. Ce dimanche matin, plusieurs stations-service ont enregistré une forte affluence. Toutefois, la population appelle le gouvernement à supprimer les taxes additionnelles à l'origine de cette hausse sans précédent des prix du carburant. Du nouveau dans la mobilité des passagers dans les véhicules Transco, désormais le paiement du transport à bord des bus de la société de transport au Congo, Transco à sigle, se fera de manière électronique. Depuis vendredi, Transco a lancé officiellement la billetterie numérique à son site délimité à Kinshasa. La digitalisation en cours, le déploiement est présenté comme une solution pour la maximisation des recettes et l'amélioration du service. Concrètement, comment ce système va-t-il fonctionner dans les bus et à partir de quand sera-t-il réellement opérationnel? Christian Makasinga, une fois encore.
Le passager pourront désormais payer via un téléphone ou une carte rechargeable ou bancaire grâce à des dispositifs de scan installés à bord de bus. Des équipes sur le terrain seront également mobilisées pour faciliter le paiement et les recharges.
La solution digitale qu'on a mise en place va utiliser plusieurs canaux. Nous allons utiliser tous les portefeuilles de monnaie électronique existants en RDC. Dans le plus grand vous en faites, il y aura deux dispositifs.
Une innovation qui sera déployée progressivement, d'abord sur certaines lignes, avant une généralisation à l'ensemble du réseau d'après-gérer. Jérémy Kidoubi, directeur général du Transco.
Je crois que dans les jours qui suivent, les gens vont voir effectivement l'implémentation de la digitalisation. Le demain, déjà, les réseaux interurbains, c'est-à-dire les bus qui vont dans les provinces, ça sera déjà d'implémentation. Mais chemin faisant, avec le temps, nous allons commencer avec les lignes urbaines. C'est-à-dire que nous allons la plus prendre les lignes où il n'y a pas assez de gens pour s'exposer même.
Cette réforme qui vise à éradiquer l'écoulement de recettes et accueillir avec espoir, mais aussi avec des attentes.
L'argent que le bus produit n'arrivait pas vraiment à la caisse. Hein, il serait préférable qu'il puisse vraiment veiller à ce qu'il y ait de la modernisation sur le plan confort des usagers.
Entre modernisation annoncée et mise en œuvre progressive, Transco engage une réforme majeure dont l'impact sera observé dans le prochain jour.
Dans la province de l'Ituri, le trafic a repris normalement aujourd'hui sur la route nationale numéro 4 sur l'axe Komanda Luna. Cependant, la journée d'hier était agitée à la suite de l'attaque des ADF au village Ndimokoto, au sud du territoire d'Irumu. Selon des sources sécuritaires, ces malfrats ont pris en otage plus d'une dizaine de personnes, ce qui a perturbé toutes les activités sur cet axe routier d'une importance économique majeure dans la région. L'armée dit être à la poursuite de ses ennemis pour la libération des otages. Martial Kiza.
Ce dimanche, des centaines de véhicules qui étaient bloqués sur cet axe routier font mouvement sur le D-Essence, ce qui contraste avec la situation qui a prévalu les samedis. D'après des sources sécuritaires dans la région, des rebelles ADF ont fait une incursion au village Ndimokoto en tirant des coups de feu, ce qui a créé une panique totale dans cette entité. Les sources locales renseignent que ces rebelles ont pris en otage plus d'une dizaine de personnes, dont des femmes, mais à majorité des agriculteurs. Une situation qui a perturbé le trafic sur cette route d'une importante économique capitale dans la région. Des activistes locaux des droits humains saluent l'intervention rapide des forces armées qui a permis de limiter les dégâts. Christophe Mouniadirou, lundi.
Nous, comme population, nous voulons voir l'armée libérer ses otages des mains de ces terroristes ADF, mais aussi à la population de continuer à donner des informations fiables et aux forces armées de la République pour permettre à ces derniers mettre en déroute et libérer la zone de ces terroristes ADF.
Les sources sécuritaires précisent que des opérations militaires sont en cours de la profondeur de Ndimokoto pour la libération des otages demain des ADF en errance dans Walesevonkoutou. Bounia, Martial Kiza, Biamungu, Radio Okapi.
Province du Nord qui voit encore une nouvelle attaque armée vient d'être enregistrée sur la route Goma-Boutembo. Deux personnes ont perdu la vie et une autre grièvement blessée hier lors d'une embuscade tendue contre un convoi de véhicules de transport en commun dans la zone du parc national de Virunga. Les faits se sont produits à l'endroit communément appelé Mayamoto, près de Rwindi, sur l'axe Kiwanja-Kanyabayonga dans le territoire de Rutshuru. Compte rendu ici de Bernardine Diambou.
D'après des sources concordantes dans la zone, le convoi en provenance de Goma vers Boutembo est tombé dans une embuscade de bandits armés non autrement identifiés autour des 10 heures locales ce samedi. Les bilans provisoires fait état de deux passagers tués, un chauffeur grièvement blessé par balle, ainsi que plusieurs passagers dépouillés de leurs biens, notamment de l'argent, des téléphones et autres objets de valeur. Pris en otage pendant plusieurs heures, ces passagers ont été relâchés plus tard pour poursuivre leur voyage. Le chauffeur blessé a été rapidement acheminé vers une structure sanitaire à Kanyabayonga pour recevoir des soins appropriés. Rappelons que cette attaque est l'une d'une série sur cet axe routier stratégique pourtant censé être sécurisé. Depuis plusieurs mois, les cas de braquage, enlèvement et attaques armées se multiplient entre Kiwanja et Kanyabayonga, précisément dans la zone de Busendo, créant ainsi une forte psychose parmi les usagers, une situation qui inquiète particulièrement les opérateurs économiques et les transporteurs qui assurent les trafics commerciaux entre Goma, Boutembo et Beni. Goma, Bernardine Diambou, Radio Okapi.
Merci à vous, Bernardine Diambou. Entre-temps, la situation sécuritaire reste calme dans la localité de Moliro, située à 350 km de Moba Centre, dans la province du Tanganyika. Précision donnée par l'administrateur du territoire de Moba à la suite des informations faisant état des affrontements entre l'armée zambienne et congolaise au sujet du traçage de la frontière entre les deux pays. Il invite ses administrés au calme et à vaquer à leurs activités sans crainte. On écoute Victor Kanfoua, administrateur du territoire de Moba, au micro de Paulin Munanga.
Depuis 2020, il y a eu affrontement entre notre armée et l'armée zambienne. Et à partir de cet affrontement,
il y a la SADC qui s'est engagée pour essayer de résoudre ces différends qui étaient liés au traçage de la frontière. En fait, les militaires zambiens sont à 3 km de la rivière de Kibang, attendant que la commission de la SADC puisse finaliser les traçages de la frontière. Ils sont en train de placer des bords. La situation est sous notre contrôle. Ça veut dire qu'il n'y a même pas eu un seul coup de balle. Et il n'y a même pas un militaire zambien qui s'est déplacé de là où ils sont depuis 2020 jusqu'à présent. Ils continuent à être sur le mont Sepakanyongo jusqu'à présent. Nous avons la nouvelle unité FARDC qui gère cette situation. Il y a le commandant second de bataillon qui est là. Donc il faudrait dire à la population de rester calme. Il n'y a même pas d'agitation entre nous, Congolais, et la Zambie.
Actualité internationale.
Au Mali, plusieurs militaires ou anciens militaires ont été arrêtés ces derniers jours. C'est ce qu'a révélé par communiqué le procureur de la République près le tribunal militaire de Bamako. Ces hommes sont accusés de complicité dans les attaques menées il y a une semaine par le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans JNIM, en sigle par les rebelles indépendantistes du Front de Libération de la Zawad, FLA en sigle, qui ont visé plusieurs cibles militaires à travers le pays, à Kidal notamment, reprise par les groupes armés, et à Kati, près de Bamako, fief des militaires au pouvoir. Le ministre de la Défense, le général Sadio Camara, a même été tué dans cette attaque.
L'invité.
Nous venons d'écouter la réaction de presque tous les acteurs du secteur de la liberté de la presse en République démocratique du Congo, et à l'instant, nous voulons vous proposer d'écouter aussi la position des journalistes du Nord Kivu à travers leur organisation locale. Ceux-ci sollicitent l'accompagnement du gouvernement pour qu'ils exercent bien leur métier dans des conditions décentes. Ils l'ont fait savoir aujourd'hui même à l'occasion de la célébration de la Journée internationale de la liberté de la presse. Écoutons à présent ce membre de l'Union nationale de la presse de la République démocratique du Congo, section Nord Kivu, Valérie Mukosasenge, s'entretient avec Marc Marou.
Valérie Mukosasenge, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Pourquoi cette journée ?
La journée d'aujourd'hui, c'est une journée qui marque vraiment un signal fort. Également une journée qui nous pousse à lancer un cri d'alarme, mais également une journée d'espoir pour ces journalistes-là qui, bien sûr, suite à l'insécurité, se sont mis de côté, mais également ceux qui travaillent dans des zones sous contrôle, des rebelles qui travaillent sous réserve, mais également avec l'autocensure. C'est une journée qui nous demande, une fois de plus, nous journalistes travaillant dans les zones insécures, d'être toujours les porte-étendards de cette minorité de la population qui a besoin d'avoir une bonne information, l'information à la source. C'est également une journée qui nous pousse à la résilience et montrer qu'au-delà de cette insécurité, il y a une lueur d'espoir, une liberté de la presse. Également une journée où nous lançons un message au gouvernement congolais de laisser cette presse, cette liberté aux journalistes et bien travailler, de leur ouvrir les portes pour donner leur point de vue par rapport à tout ce qui ne marche pas, mais également de comprendre que la presse ou les journalistes, c'est un collaborateur direct avec le gouvernement congolais, parce que c'est à travers ces journalistes que l'on donne la bonne information, que l'on lutte contre la désinformation, mais également, comme vous le savez, à l'heure où nous sommes, une autre arme, c'est également cette désinformation. Ça veut dire la guerre également numérique. Et ces journalistes aujourd'hui est là pour faire face à ça. Voilà pourquoi nous demandons encore une fois de plus aux autorités congolaises de nous venir en aide, de nous aider, de nous accompagner pour que nous soyons ce quatrième pouvoir qui est là comme chaîne de garde pour montrer ce qui ne marche pas, mais également montrer au gouvernement là où il y a des zones d'ombre pour que les choses évoluent, pour qu'il y ait un changement dans la société.
Au regard du contexte sécuritaire que traverse le Nord Kivu, quel est l'état des lieux de votre profession dans cette province?
C'est pas facile pour ces journalistes qui travaillent dans des zones insécurisées, travailler durement également dans des conditions difficiles. mais tout en respectant les codes d'éthique et d'ontologie. C'est pas facile. Je sais, voilà pourquoi je dis qu'il y a de ces journalistes qui ont abandonné ces métiers parce que ils se sont trouvés coincés, se sont trouvés dans une situation inconfortable. Mais il y a de ces vaillants-là, des chevaliers de la plume qui continuent toujours, malgré cette situation, de donner cette information, la bonne information à la population. Donc, disons, donc, grand merci à ces journalistes-là qui continuent toujours malgré cette situation qui est bien sûr passagère, mais également nous devons pousser, nous comme journalistes, pousser le gouvernement congolais de nous ouvrir quand même les portes pour que nous donnions la bonne information équilibrée, tenant compte également des situations que nous traversons.
Valérie Mokosasenge, comment un État peut-il concrètement assurer la sécurité aux professionnels des médias quand parfois c'est le même État qui malmène la liberté de la presse? N'est-ce pas un vœu pieux? Et face à ces réalités, quel comportement les professionnels des médias doivent-ils adopter, eux qui ont la mission de former la population, tout en faisant face aux contraintes sécuritaires?
Je pense que l'attitude à prendre aujourd'hui, malgré cette situation, c'est de dire qu'on a une mission. Nous sommes comme des enseignants, nous sommes comme une lampe qui doit éclairer la société. Donc on ne doit pas se décourager. Malgré cette situation, nous devons toujours être focus et se dire, si nous ne sommes pas là, la société sera perdue, la société n'aura pas de repères. Donc nous sommes une lampe qui doit servir pour éclairer et également aider le gouvernement congolais à comprendre que si nous mettons de côté la presse, le gouvernement ne saura pas bien travailler, ne saura pas qu'est-ce qui ne marche pas. Aujourd'hui, nous sommes 130e au monde sur 180 pour ce qui concerne la liberté de la presse. C'est un recul, c'est un message encore fort que nous lançons au gouvernement, de ne pas de laisser les journalistes bien travailler, mais également de ne pas chaque fois les pousser, mais également être des porte-faux à la liberté de la presse.
Valérie Mokosasenge, merci.
C'est moi qui vous remercie.
Cette session d'information se clôture donc ici. Merci à Alain Goy, Richard Junior Kamunga et Jean Gandou de m'avoir aidé à le présenter. Merci à vous pour votre écoute. Agréable soirée à tous.